BFM, les grands débats, Nicolas Dose.
Bonjour, bienvenue les grands débats. Comité Balladur dans une heure. Nicolas Sarkozy reçoit demain la feuille de route 2014 de l'ancien Premier ministre. Rien ne se fera sans la volonté des intéressés, disait hier François Fillon. La nouvelle carte administrative enflamme en tout cas le débat politique avant la prochaine bombe qui sera très certainement le redécoupage électoral qui devrait tomber d'ici quelques semaines. Premier des grands débats dans la peau de deux anciens traders, Marc Fiorentino alias Sam Ventura, face à Henri Quinson. Le premier ne meurt jamais, le second aspire à la vie éternelle. Le premier s'est retrouvé célibataire ruiné, le second a fait vœu de célibat et renoncé à l'argent. Le premier a mis son salut dans les pourcentages, le second l'a trouvé dans les psautiers. Le premier passe des ordres du matin au soir, le second est entré dedans. Le premier était un petit garçon pauvre devenu riche, le second un fils de bourgeois qui a choisi la modestie. Tous les deux ont dédié leur vie aux valeurs, mais pas exactement les mêmes. Bonjour Marc Fiorentino.
Bonjour, quel beau texte.
Pas mal, hein?
Ah, franchement, impressionnant.
Président d'Europe, ce matin, là, c'est avec
lui. Mais je savais plus qui était qui, enfin.
Ah, ben le premier, c'est Sam. Le...
Ah, bon, d'accord. Voilà. Je pensais que c'était moi le... qui était rentré dans les ordres, mais bon.
Président de Roland Finance, il est donc l'auteur d'Un trader ne meurt jamais aux éditions Robert Laffont. Et face à vous, donc Henri Quinson, vous prononcez à la française ou à l'américaine?
Parce que vous avez... comme vous voulez, mais on est en France.
Henry Quinson.
C'est Henry Quinson, mais Henri Quinson.
Quinson, d'accord. Voilà. Il est membre fondateur de la fraternité Saint-Paul, qui est située dans les quartiers populaires de Marseille depuis une dizaine d'années. Et donc, vous êtes l'auteur de Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille, publié aux éditions Nouvelle Cité. Petit préambule, Marc Fiorentino, Sam Ventura, est-ce que c'est vous?
En partie, oui, il y a une partie du livre qui est...
Vous avez le même âge?
Oui, il y a une partie du livre qui est autobiographique, très clairement une partie de ce que j'ai vécu sur les marchés. C'est plutôt moi par les personnes que j'ai croisées sur les marchés pendant les 26 années où j'ai été sur les marchés. J'y suis toujours, d'ailleurs, comme vous l'avez dit. Ouais. Je suis toujours dans l'ordre des marchés. Et c'est vrai qu'il y a une grosse partie de vécu. Je pense qu'il était important pour donner un peu cette impression de l'intérieur, ce vécu des marchés, que j'y mette un peu ce que j'avais vécu moi-même.
Vous étiez un petit garçon pauvre?
Absolument.
Vous êtes passé par Louis le Grand?
Et absolument aussi.
Alors vous étiez à Saint-Jean-de-Passy à peu près aux mêmes années, à mon avis. Hein.
Oui, ouais, c'est à peu près ça. Ouais.
J'ai 49 ans, moi. Donc,
voilà. C'est ça.
Je suis un tout petit peu plus jeune, né en 61.
Donc, et puis en préambule numéro 2, je me tourne vers vous. Je vais vous appeler Henri Quinson. Hein.
Oui, tout à fait.
On est à Marseille, finalement. La vérité, vous n'avez pas été trader à Wall Street. On est d'accord. Vous avez... Là, il y a une espèce d'image un peu...
J'ai travaillé seulement 3 mois à Wall Street en plein crash en 87 avec Bankers Trust. J'étais à l'époque en formation envoyée par la banque Indosuez, qui était la principale banque de la compagnie financière.
Celle que vous quittez en 1989 pour une autre vie.
Hein. Et après, bon, bah, je travaillais tous les jours en anglais comme tout le monde. Et l'après-midi avec Wall Street, oui. Donc c'est effectivement emblématique des marchés. Hein. C'est pas forcément un lieu physique.
Est-ce que, alors je faisais cette espèce de référence un peu tirée à l'élastique sur la vie éternelle et le trader ne meurt jamais, mais est-ce que c'est pas ce qui vous rapproche finalement d'une certaine manière?
Les marchés ou la vie éternelle?
La vie éternelle, le trader qui ne meurt jamais. Moi, je suis désolé,
Oui, alors.
Et pourtant, il est crucifié sur l'autel des marchés de temps en temps, puisque par moments, il y va au tapis. Hein.
Ouais. Ouais, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les marchés, c'est aussi la vie. Hein, donc, souvent, les gens s'imaginent que j'ai quitté les marchés parce que tous les marchés, c'est pourri, etc. Moi, c'était pour des raisons positives et pour passer à autre chose. Ce qui est important, c'est de comprendre que la monnaie nous donne 2 degrés de liberté fantastique, quand même, nous permet de multilatéraliser les échanges, de sortir
du troc. Vous dites du bien de l'argent dans votre livre, avec des bémols, mais du bien de l'argent.
Oui, spécifiquement de la monnaie comme instrument qui permet aussi de se libérer des contraintes de temps en prêtant quand on a trop d'argent, en empruntant quand on n'a pas assez. Je dis la monnaie est la richesse de manière générale. Sont un bon serviteur et un mauvais maître. Donc la question, c'est plutôt d'avoir une attitude juste par rapport à l'argent. Donc oui, je peux étonner un peu les gens, mais je considère qu'on a toujours besoin des marchés. Moi, je travaillais sur le marché d'échange. Tant qu'il y aura une zone euro et une zone dollar, il faudra bien, quand on vend des Airbus aux Américains, échanger ses devises. Donc c'est quelque chose qui, de toute façon, existe. Après, c'est qu'est-ce qu'on a en fait.
L'argent, n'y mettez pas votre cœur. Vous citez le psaume 61, on en reparlera. Allez-y, Marc Fiorentino.
D'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, il faut simplement rappeler, parce que les gens ont tous l'impression qu'aujourd'hui, les marchés sont dans une situation catastrophique et qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a plus de trading, que le trading a repris de plus belle, que le marché d'échange dont vous parlez est le marché qui est aujourd'hui le plus actif, dans lequel on embauche, dans lequel il y a des profits exceptionnels. Dans
sur
la
lequel
plupart,
Sam Ventura va jouer, d'ailleurs.
Entre autres, il joue sur le pétrole, mais là, sur le marché d'échange aujourd'hui, avec ce qui se passe notamment avec les devises des pays de l'Est, avec les fluctuations sur l'euro, avec les fluctuations sur le yen. C'est un marché qui est incroyablement actif et je peux vous dire qu'il y a en ce moment des profits qui se font sur ces marchés-là dans des établissements comme Goldman Sachs, comme Morgan Stanley, même à la Société Générale. On serait étonné de le savoir.
Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez? Marc Fiorentino, au début du livre, là, vers la page 15-18, vous écrivez « Nous, financiers, nous ne pouvons nous enrichir qu'en créant des bulles et en les faisant exploser. Tant pis pour les pauvres, pas de place pour les sentiments. Les victimes s'entassent, la finance passe. » Est-ce que c'est le fond de votre cœur qui est traduit par ces lignes?
Bon, là, c'est quand même un roman. Hein.
Il
y a une partie qui est autobiographique, mais j'assume complètement ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que je pense que à partir du moment, et je respecte le choix qui a été fait, c'est-à-dire de quitter la finance, je pense qu'à partir du moment où on est dans la finance, il faut accepter les principes de la finance. C'est-à-dire qu'on est dans le jeu des marchés, et je suis contre l'hypocrisie qui consiste à être dans la finance, un pied dedans, un pied à l'extérieur. Alors, la finance est, pour moi, par définition, je vais choquer probablement certains, mais en ce moment, c'est plus facile à dire qu'il y a quelques années, profondément amoral.
Vous l'écrivez, vous l'écrivez.
C'est-à-dire qu'on est dans un monde, il faut comprendre le monde de l'industrie financière. L'industrie financière fonctionne exactement pour moi comme l'industrie de l'armement, c'est-à-dire que l'industrie de l'armement a besoin de conflits, l'industrie financière a besoin de bulles et de crack. S'il n'y a pas de crack, il n'y a pas de bulle. S'il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de crack. S'il n'y a pas de bulle et de crack, il n'y a pas de profit. Donc je crois qu'il faut être quand même très clair là-dessus. C'est pas la peine d'essayer de se donner une bonne image ou une bonne conscience, comme je vois le faire des gens comme Jean-Marie Messier ou autres, qui aujourd'hui ont oublié leur passé de financier. Tout le monde a oublié son passé financier.
Vous l'avez traité d'amnésique.
Parce qu'il a écrit un livre où il a dit le jour où le ciel nous est tombé sur la tête. Mais je crois que lui, le ciel lui est vraiment tombé sur la tête parce qu'il s'en est parmi, quoi. Ouais. Il a tout oublié.
Henri Quinson, ça vous choque d'entendre quelqu'un qui, effectivement, avec une forme de lucidité réelle, mais aussi peut-être une forme de cynisme, c'est la règle du jeu, nous dit, voilà, il faudra qu'il y ait des cracks, des bulles et des cracks pour qu'il y ait du profit, pour qu'il y ait de la finance, et de toute façon, ça va continuer. Alors, j'ai pas de place pour les sentiments. Ça vous choque?
Non, c'est pas que ça me choque, c'est que je suis en désaccord. Je pense que c'est un aspect des marchés, mais je pense que ça n'est pas le seul. Et que principalement, ces marchés ont été créés pour financer l'économie, et l'économie, pour moi, est au service de l'homme. Et que par ailleurs, par exemple, sur le marché d'échange, mais pas seulement, il y a aussi des instruments qui ont été créés pour se prémunir contre le risque, c'est-à-dire que contre l'économie risque, réelle, voilà, exactement. Donc une entreprise,
les compagnies aériennes font ça, notamment se prémunissent contre ce genre de risque. Enfin, toutes les grandes boîtes font ça. Oui.
Ouais, exactement. Enfin, le rapport entre le besoin réel, notamment de couverture, et le volume global est de 1 à 100. C'est-à-dire que pour 1 de couverture, il y a 99 de spéculation.
Alors là-dessus, j'aimerais apporter un petit éclairage technique, parce qu'effectivement, ce serait stupide de dire qu'il n'y a pas de spéculation dans le marché. D'une certaine manière, elle est parfois nécessaire et certains diraient utile. Cela dit, moi qui ai géré des portefeuilles d'options de change, si vous gérez un portefeuille d'options de change, enfin sans entrer dans les détails techniques, en delta neutre, etc., vous êtes obligé à certains moments de multiplier des opérations de marché qui sont des opérations de couverture de votre portefeuille, qui font que vous allez faire beaucoup d'opérations sur le marché au comptant, mais aussi à travers les swaps sur les marchés de trésorerie, etc. Et par conséquent, une opération simplement avec un client...
Rien perdu, vous avez encore tous les réflexes, tout le jargon...
Un trader ne meurt jamais.
On est dans une économie complexe, il faut la comprendre. Il y a une part d'intelligence.
Il a les yeux qui brillent,
oui,
qui leur parlent.
Oui,
vous avez vu ou pas?
Mais quand même, cette idée, et là, sortons effectivement du verbatim Fiorentino, le fait est que des victimes s'entassent, et aujourd'hui, pas simplement des victimes qui ont spéculé, puisqu'on voit bien qu'on est en train quand même de socialiser massivement des pertes colossales. Et la finance, elle continue, il l'expliquait, Marc, on n'en parle pas.
Les hedge funds continuent, il y a des hedge funds...
Les États
deviennent des hedge funds. Aujourd'hui, toutes les banques qui ont eu la chance de ne pas avoir recours à la nationalisation, et même Bank of America disait hier, oh là là, on a fait une énorme erreur, on a demandé 20 milliards, on aurait dû demander que 10 milliards, et on va vite les rendre, pourquoi? Pour échapper à la réglementation, à la régulation et au contrôle des États, et pour pouvoir spéculer. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'une banque comme Goldman Sachs aujourd'hui se dit, il faut vite rendre, en tout cas ne plus avoir accès au financement de l'État, parce qu'on veut gagner de l'argent. Ce qu'il faut dire de plus horrible, et je voudrais quand même dire aussi la vérité, même si c'est très cynique, c'est que la période actuelle n'a jamais été aussi favorable à la spéculation. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins d'acteurs, qu'il y a beaucoup de hedge funds qui sont morts, il y a des banques qui n'ont plus le droit de spéculer, et donc les opportunités d'arbitrage, puisque c'est ça le marché de la spéculation, c'est essayer de bénéficier des inefficiences sur le marché. Il y a des inefficiences quand il y a moins d'acteurs et il y a des possibilités d'arbitrage. Il n'y a jamais eu autant de possibilités d'arbitrage qu'en ce moment.
Là-dessus, sur l'arbitrage, là aussi, un petit peu d'éducation pour les auditeurs, c'est que l'arbitrage, pour moi, n'est pas de la spéculation. L'arbitrage, c'est aussi utile que ces petits oiseaux qui se posent sur les dents des crocodiles. Les crocodiles ne peuvent pas se brosser les dents, ils ont besoin de petits oiseaux pour aller manger. Et donc la nature a bien fait les choses. Pour moi, les arbitragistes ne sont pas des spéculateurs. C'est des gens qui passent leur journée à tirer profit d'un certain nombre de décalages entre différents instruments qui sont interconnectés pour des raisons techniques, inutile de rentrer dans le détail. Et donc ces gens-là, pour moi, ne sont pas des gens qui prennent des positions spéculatives. Pour moi, c'est pas exactement la même chose.
On verra ça tout à l'heure. J'ai l'impression que vous trouvez des excuses à beaucoup de gens là. Bon, enfin, bon.
Non.
On va marquer une pause. On va poursuivre ce débat dans un instant entre Marc Fiorentino et Henri Quinson.
Chaque matin à 6h50 et le soir à 19h55, retrouvez Compétences, la chronique emploi de BFM. Quel que soit votre secteur d'activité, découvrez chaque jour de nouveaux postes à pourvoir avec MediaRH.com, le premier site d'emploi qui donne au quotidien la parole aux entreprises qui recrutent.
Et si cette semaine, je vous donnais tous mes bons plans ? Je commencerai par tous les services gratuits de Google. Ensuite, on découvrira 10 moniteurs 24 pouces à partir de 249€. Et pour finir, on choisira votre prochaine sacoche pour netbook.
Attirant et tellement pratique. MicroHebdo, c'est un contenu clair. Design, avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. MicroHebdo, simplifiez-vous la vie.
Comment ? Nous n'avons toujours pas de solution de vidéoconférence pour les collaborateurs itinérants ? Monsieur le DSI va arranger ça, n'est-ce pas Michel ?
Bien sûr, Président.
Collaboration, mobilité, données, Alcatel-Lucent, c'est bien plus que de la téléphonie. Faites appel à Orange Business Service pour déployer et maintenir votre système de communication. Retrouvez Orange Business Service au Forum Entreprise Alcatel-Lucent du 4 au 5 mars au Palais des Congrès de Paris et sur alcatel-lucent.fr.
BFM, la radio de l'écho.
À la carte, les marchés en direct, on retrouve Marie Cœur de Roy.
Et le CAC 40 en belle hausse, plus 1,8% à 2602 points. Tout de suite, on passe au focus marché du jour et on s'intéresse au groupe Bruxelles-Lambert. Tout comme Warren Buffett, Albert Frère et Paul Desmarais ont souffert sur l'année 2008. Les comptes de leur holding GBL tombent même dans le rouge pour la première fois, Antoine Larigauderie.
Des pertes chez Bruxelles-Lambert. Là, on a aussi un exemple parfait d'un monde qui change, mais vraiment beaucoup de décontraction tout de même de la part du groupe qui va verser un coupon en hausse de 10% à ses actionnaires à 2,30€. En fait, si Bruxelles-Lambert se retrouve en perte nette sur 2008, c'est à cause de fortes dépréciations des actifs cotés, surtout en France. C'est Lafarge qui a pesé le plus lourd, avec sa baisse de 73% sur l'année, et ça se traduit par 1 milliard d'euros de dépréciation, 315 millions sur les parts d'Ampère Ricard, sans compter les actions GDF Suez, Total, Iberdrola et j'en passe, qui ont aussi largement perdu de leur valeur. L'actif net est donc en baisse de 35%, 12,8 milliards d'euros, mais pas de quoi briser l'optimisme du groupe Bruxelles-Lambert qui se rattrape sur le cash earning, la corbeille de dividendes et de coupons. Et là, on a une hausse de 35% à 721 millions. GBL possède 800 millions d'euros de trésorerie disponible et tous ses financements sont assurés. De quoi regarder vers l'avenir avec une certaine sérénité.
Je vous rappelle le CAC, plus 1,7% à 2599 points.
Un point sur les marchés boursiers tous les quarts d'heure, uniquement sur BFM Radio.
Les grands débats. Nicolas Dose sur BFM.
Marc Fiorentino, président de Roland Finance et auteur du Trader qui ne meurt jamais aux éditions. Enfin, un trader ne meurt jamais, c'est le titre exact, aux éditions Robert Laffont. C'est un roman avec quelques aspects autobiographiques. Nous avouait tout à l'heure Sam, ou plutôt Marc Fiorentino, qui s'appelle Sam Ventura dans l'ouvrage, et Henri Quinson face à lui, qui publie Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille en 1989. Vous démissionnez donc de cette banque indo-Suez. Marc Fiorentino, ce pays me déprime, les jeunes rêvent d'être fonctionnaires, tous c'est gris, tous sont vieux, que personne ne gagne, il ne faut voir qu'une tête, une tête de perdant, égalité, médiocrité, égalité, allons enfants de la paresse, le jour du Loir est arrivé. C'est la France.
Oui, je pense que c'est la France et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on résiste aujourd'hui beaucoup mieux à la crise. Je pense que puisqu'on va parler religion, il faut parler de la France et de son rapport à l'argent aussi qui est quand même extrêmement complexe.
Après, hein.
Je pense qu'on est dans un pays aujourd'hui qui est un pays qui manque de décence. C'est-à-dire que, et je suis face à quelqu'un qui passe ses journées avec des gens qui sont réellement pauvres, je pense que la pauvreté existe, il faut pas la nier. Le chômage est une condition terrible, mais je pense que les Français manquent de décence. Ceux qui ne sont pas dans les conditions que des gens que vous rencontrez au quotidien doivent se rendre compte qu'ils ont une vie extrêmement privilégiée dans laquelle ils travaillent très peu.
Mais c'est
dans
pas lequel... le sens de ce que je disais là.
Si, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on défend le droit à la paresse, le droit aux 35 heures, le droit à gagner autant en travaillant moins, le droit aux vacances. Quand on parle de crise de 1929, je voudrais rappeler simplement une chose, c'est qu'en 1929, les gens faisaient la queue devant les soupes populaires. En février de cette année, les gens faisaient la queue devant la gare de Lyon pour partir en vacances de ski. Et c'était pas que des gens qui habitent dans le 16e ou qui habitent à Neuilly. Donc je pense qu'il y a un manque de décence. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est ce rapport de la France au travail. C'est ce que je dis dans le livre, on va en parler sûrement, le rapport de la France à l'argent.
Alors, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Marc Fiorentino, et notamment à l'aune des propos que je citais là, qui sont en page 16 du livre? C'est effectivement, c'est vrai qu'on a une haine du profit. En France, on va se gargariser de mal gagner sa vie, alors qu'aux États-Unis, on va se vanter de bien la gagner. C'est quand même une façon très très différente de voir les choses.
Moi, je suis franco-américain, donc vrai que j'ai deux logiciels qui fonctionnent concurremment, et vous avez tout à fait raison, et je trouve que justement, il faudrait avoir un juste rapport à l'argent, donc déjà commencer à comprendre comment fonctionne l'économie, fonctionne la finance, car quand on porte un jugement moral, il faut le faire en conséquence d'un certain nombre d'informations qu'on peut avoir, et donc je crois que c'est important déjà de comprendre les mécanismes. Ensuite, effectivement, sur les objectifs, il y a effectivement une grande différence entre une approche qui consisterait à dire, bon, voilà, il s'agit, je me rappelle que quand j'ai fait ces 3 mois à Wall Street dans une banque américaine, il y avait un formateur qui venait tous les matins et qui nous disait, pourquoi sommes-nous ici, et tout le monde hurlait, pour gagner de l'argent. Je pense que c'était un peu court, moi, comme conception de la vie, donc je ne m'inscris
pas
là-dedans.
Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que... Voilà, il est là pour gagner de l'argent, évidemment.
Mais écoutez, moi, ma vie, je me suis très bien passé d'argent pendant 20 ans. J'ai vécu avec 1000 euros par mois. Je ne suis pas malheureux. Donc, il y a une obsession de l'argent et un rapport malsain à l'argent qui me paraît caractéristique non seulement des sociétés occidentales, mais de toutes les sociétés, je dirais même surtout en Chine.
Je vais plus loin. Le fait que dans ce pays, et là, on est en page 63 du livre de Marc, il y a une haine pour l'entreprise, pour le patron, pour le profit. C'est plus simplement, là, on n'est plus dans le même terrain. Vous êtes avec des gens, les gens que vous rencontrez régulièrement dans les quartiers nord de Marseille, ont-ils une haine de ceux qui gagnent?
Alors,
on a le droit de gagner quand on a bossé.
On ne peut pas généraliser. Je raconte dans mon livre l'histoire d'un de mes voisins qui, il y a 10 ans, me dit, voilà, mon rêve, c'est de devenir banquier. Voilà, donc dans les quartiers nord de Marseille, il y a des gens qui rêvent de devenir banquier. Et qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoute, ça tombe bien, moi, je suis un ancien banquier. Au début, il ne me croit pas parce qu'il me dit que dans les cités HLM, il n'y a pas de banquier. Et je lui dis, c'est vrai que j'ai quitté la profession. Eh bien, l'année dernière, il est venu me voir et m'a dit, voilà, j'ai enfin eu mon CDI à la Société Générale et je vais pouvoir commencer ce travail. Donc moi, j'ai pas du tout de complexe par rapport à la société d'économie mixte dans laquelle on est, qui, je trouve, doit être suffisamment intéressante pour que les gens se pressent à nos frontières pour venir habiter ici. Donc il s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon. Par contre, il me semble qu'il faut un juste rapport à l'argent pour que le développement économique soit à la fois écologiquement responsable et socialement juste.
Quand Obama dit qu'on va limiter le salaire d'un patron qui est aidé par l'État à 1 demi-million de dollars par an, vous trouvez que c'est une bonne mesure, par exemple, ou...
Moi, je pense qu'il faut agir par la fiscalité, personnellement. Voilà, si les gens considèrent qu'il y a des personnes qui gagnent trop d'argent ou qu'il est utile de le réinjecter dans un certain nombre de services qui sont aussi des services publics, eh bien, il y a le système de l'impôt. Voilà, tout simplement.
Okay. Donc, ça sert à rien de courir après les bonus. Marc Fiorentino, allons-y sur ce rapport de la France à l'argent.
Très important, ce qui vient d'être dit, c'est que je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que la personne des cités ait envie d'être banquier ou ait envie de s'en sortir par l'argent, ça je suis tout à fait d'accord. C'est pas de là que vient l'hypocrisie, c'est pas dans les cités que vient de l'hypocrisie. L'hypocrisie vient de la grande majorité des classes moyennes. C'est-à-dire qu'on est dans un pays dans lequel il y a une sorte de schizophrénie. Les Français sont riches et ils veulent pas le dire. On a quand même 5 millions...
C'est ce que dit Jacques Marseille dans son livre.
Qui est remarquable d'ailleurs. Qui est 5 millions de livrets A qui ont été ouverts depuis le début de l'année. Il y a en France 50 millions, vous avez entendu, hein, 50 millions de livrets A qui sont ouverts. 50 millions de livrets A pour un peu plus de 60 millions de Français. Ça veut dire que les Français c'est un pays dans lequel, hors les cités, hors les pauvres qui existent, la question est, il faut pas l'exclure, le chômage, tout ça est un mal terrible, mais la France est un pays riche de classes moyennes qui sont riches, et les Français, si vous leur dites ça, ils vous disent, ah non, surtout pas, il faut pas le dire, on reste caché, et quand ils se rendent compte, ils vont surtout pas parler de ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils ont en économie. Aujourd'hui, il y a quand même 7 millions de PEA, il y a 140 milliards d'euros sur les livrets A. 140 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte d'hypocrisie à cracher sur l'argent. D'un autre côté, les Français, le seul moment où ils ont eu peur pendant la crise, aujourd'hui, ils commencent à avoir peur du chômage. Le seul moment où ils ont eu peur pendant la crise, c'est quand ils ont cru que leur compte, et nous on avait des questions, les standards étaient saturés, et chez BFM c'était la même chose, gens ont eu la trouille que les banques fassent faillite et que le pognon qu'ils avaient sur leur compte, il soit plus là. Aux États-Unis, quand on perd son job, on devient SDF. Ça, c'est quand même une grosse différence. En France, on est des nantis. C'est un pays de nantis, c'est un pays de riches. Et moi, je pense que tant qu'on n'arrivera pas à se regarder en face en se disant « il faut qu'on ait un rapport qui soit un rapport sain à l'argent », on ne peut pas détester ce qu'on aime en secret. Moi, ce que je trouve, c'est qu'en France, on aime l'argent secret, mais à l'extérieur, dès qu'on est confronté à des amis ou à la télé ou à des sondages, on crache sur l'argent. On peut pas cracher, on peut pas mordre la main qui est sa propre main. Finalement, je veux même pas dire la main qui nous nourrit.
Henri Quinson, imaginons une seconde, on a moins d'une minute, mais on y reviendra. Que vous soyez face aux gens que vous côtoyez tous les jours et que vous leur teniez ce discours, vous êtes des nantis parce que vous avez des aides sociales, vous êtes des riches.
C'est pas eux.
C'est pas eux.
Marc a bien fait la différence. Ouais. Il a tout à fait raison.
C'est parce qu'eux veulent s'en sortir.
Il y a deux questions là qui se posent. La première, c'est que la France, elle n'est pas déconnectée du reste du monde et que précisément, si les gens se pressent dans notre pays, c'est précisément parce que, de fait, globalement, la France est un pays riche, ça, il n'y a aucun doute. Et ça me rappelle une petite anecdote que je raconte, c'est que moi, mes amis africains qui viennent d'arriver en France, je les mets devant la faculté de Saint-Jérôme à Marseille et je leur dis, voilà, nous sommes en crise depuis 1973, comptez les voitures, ces jeunes ont entre 18 et 20 ans, ils ont tous leur voiture. Donc, effectivement, il y a quand même un paradoxe à dire, voilà, à se plaindre tout le temps. La question, après, c'est se situer, à mon avis, dans le marché des capitaux et dans les organisations internationales, se situer par rapport au reste du monde. Car il faut bien comprendre que quand on prend l'avion, ce que je fais régulièrement, et à une heure d'avion qu'on va en Algérie, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'eau au robinet de la Casbah. Donc là, il y a un peu de pression dans la balle.
On marque une pause, à tout de suite.
Il suffit de prononcer son nom et d'un coup, tout un monde se dessine. Sampé. Cette semaine, Télérama vous propose, sous forme d'un carnet exclusif, des dessins de Sampé sur les écrivains, les peintres, les journalistes. Gens de lettres et gens de médias, épinglés comme jamais. Du grand Sampé. Cette semaine, Télérama et le livre Les carnets de Sampé, 7,90€ chez votre marchand de journaux.
Avec ITG, j'ai enfin pu équilibrer ma vie. ITG me forme, je trouve mes missions, je suis salarié avec tous les avantages que cela comporte et j'accède à un réseau de plus de 2000 consultants.
Comme nos experts consultants, rejoignez ITG, première société de portage salarial présente dans toute la France. ITG 01 44 69 80 40 44 69 80 40 et sur www.itg.fr.
ITG, l'accompagnement vers l'autonomie professionnelle.
Élégante, raffinée, solide et fiable.
Elle a toutes les qualités. La berline Volvo S60 de litre 4 diesel édition confort. Et son prix est très confortable.
En ce moment et jusqu'au 30 avril seulement, votre Volvo S60 édition confort est au prix exceptionnel de 22 900€. Élégante, raffinée, solide et fiable. La berline Volvo S60 à 22 900€. C'est très très confortable, non?
Offre valable dans le réseau Volvo Paris-Île-de-France. Dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en concession.
BFM, la radio de l'écho.
Il est 10h27, les marchés en direct avec Guillaume Sommerer. Bonjour Guillaume.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le CAC 40 progresse assez nettement, il gagne 2% en ce moment. Il franchit les 2600 points, on est à 2607 en ce moment. Rebond technique aussi sur les autres places européennes, le FTSE à Londres prend 1,8%. Le DAX à Francfort, 1,2%. Jean-Louis Cussac, bonjour.
Bonjour.
De Perceval Finance Conseil, Jean-Louis, rebond technique assez conséquent, mais c'est sans doute aléatoire une nouvelle fois.
Écoutez, on est exactement sur le même niveau qu'hier, à la même heure où nous parlions ensemble. Voilà, donc pas de changement, malgré des chiffres plutôt pas mal à l'image de Vinci. D'ailleurs, c'est ce qui permet peut-être quand même le rebond du CAC 40, hein, Vinci qui gagne 8% maintenant. Donc le marché reste constamment quand même dans une zone un petit peu dangereuse. Techniquement, les pressions sont toujours à la vente. Je pense entre autres, il y a bien des choses, hein, mais qu'il y a un petit peu trop d'acheteurs en spéculation sur les futurs. Alors, ils se cramponnent à leur position dans l'attente d'un rebond, ils sont persuadés que le marché va rebondir. Mais un acheteur, c'est avant tout un vendeur potentiel. Donc dès que ça remonte un peu, bah, ils vendent, ou dès que ça baisse, ils sont un petit peu fragilisés, ils sont obligés d'accompagner le mouvement. Donc la résistance 2615, elle a fait merveille hier, elle a bien fonctionné, elle est encore la plus proche à surveiller ce matin. On reste éloigné des 2760, niveau au-dessus duquel les probabilités de reprise, et cette fois-ci d'un rebond technique significatif, donc les probabilités augmenteraient. Bon, si on casse 2550, j'ai 2470 dans le viseur. Voilà, rien de plus. Je déclenche un achat très très court terme, toujours un petit peu plus haut, à 2830.
Alors du côté des valeurs, Jean-Louis, vous avez choisi Score, hein, qui sous-performe aujourd'hui, plus 0,3% seulement à 15,20€.
Oui, mais quel beau comportement tout de même depuis un an, puisque Score a passé la crise à cours inchangé depuis un an. Donc Score a publié un résultat net en baisse de 22,8% pour 2008, en baisse assez sensible, affecté par des dépréciations d'actifs, par une hausse de la sinistralité, mais Score a confirmé les objectifs de son plan stratégique dans un contexte de crise favorable. Donc la situation financière est très solide, le groupe propose un dividende de 0,80€, les recommandations sont en accumulé avec des objectifs vers 16 euros.
Merci Jean-Louis Cussac. Le CAC 40 prend donc 2,2%, 2611 points. L'euro vaut 1,2517.
Indice, cours, change, cotation en temps réel, 36,67, le numéro boursier de BFM Radio, 34 centimes la minute.
Il est bientôt 10h30, l'essentiel de l'information avec Marie Gordoroy.
Nicolas Sarkozy évoquera le cas de Florence Cassez lors de sa visite dimanche au Mexique. C'est ce qu'annonce ce matin Luc Chatel, le porte-parole du gouvernement. La justice mexicaine vient tout juste de réduire la peine de la Française condamnée pour enlèvement à 60 ans de prison. Florence Cassez avait été interpellée avec son ex-fiancé considéré comme le chef d'un groupe criminel. Après l'attentat de Lahore hier qui a fait 8 morts, le Pakistan interpelle 20 personnes et durcit le ton face aux talibans. Pas question de négocier avec eux, déclare le président Zardari. Nous n'avons pas le droit à l'erreur dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré le chef de l'État pakistanais. Toujours aucune issue à la grève qui paralyse les Antilles. Les discussions sur un éventuel accord de sortie de crise en Guadeloupe n'ont toujours pas abouti. En Martinique, la plupart des commerces restent fermés malgré la signature d'un accord cadre sur l'augmentation de 200 euros des bas salaires. C'est la mère de la fillette poignardée samedi à Ucange, en Moselle, qui a porté le coup de couteau. La femme a avoué alors que le petit frère de 5 ans s'était accusé en début de semaine. La fillette, toujours hospitalisée, serait hors de danger. Sa mère, placée en garde à vue, doit être mise en examen dans la journée. Du football hier soir avec les huitièmes de finale de la Coupe de France. À noter les qualifications de Toulouse et Grenoble. Élimination pour Le Mans, en revanche, qui s'est incliné face à Guingamp 1-0.
BFM 10h30. Passe à l'économie, Marie.
Et on commence avec la présentation aujourd'hui d'un nouveau collectif budgétaire au Conseil des ministres. Collectif budgétaire de récession avec un PIB en recul d'1,5% pour cette année. Le déficit public pourrait quant à lui atteindre plus de 5,5% du produit intérieur brut en 2009. Objectif désormais pour Matignon, ne pas dépasser les 2,9% de PIB en 2012, soit tout juste en dessous de la limite fixée par le pacte de stabilité. Et c'est dans ce contexte que Renault se prépare à une crise qui durera 2 ou 3 ans. Confirmation de Patrick Pellata. Le directeur général délégué du constructeur qui était ce matin sur BFM estime d'ailleurs que l'objectif du constructeur est désormais d'être prêt pour le pire. Et face à la crise actuelle qui touche le secteur automobile, Opel fait pression sur l'État allemand pour obtenir une aide. General Motors, la maison mère du constructeur, annonce que 3500 postes pourraient être supprimés dans sa filiale allemande. Selon le patron de GM Europe, 3,3 milliards d'euros seraient nécessaires pour sauver tous les sites d'Opel. Siemens se relance dans le nucléaire, cette fois sous l'aile protectrice du russe Rosatom, qui aura le contrôle d'une co-entreprise avec l'allemand. Objectif affiché, détrôner son ancien partenaire Areva et lui ravir son statut de leader mondial de la technologie atomique. Antoine Larigauderie.
L'ex-partenaire qui devient adversaire, scénario inédit pour Areva, qui n'a pas vu venir la rupture avec Siemens, et encore moins cette alliance entre l'allemand et le russe Rosatom. Elle paraît tout à fait logique, géopolitiquement, mais sonne comme un vrai défi. Logique, car depuis quelques années, l'Allemagne a choisi la voie de la coopération énergétique ouverte avec la Russie. Exemple, Gerhard Schröder, l'ancien chancelier et responsable du pipeline de la Baltique chez Gazprom. Siemens ne voyait aucune perspective dans sa co-filiale avec Areva. Une alliance avec Rosatom paraissait naturelle dans le contexte, surtout pour développer le VVER, le PR à la russe. Et comme par hasard, la première grande convention de Siemens après la rupture avec Areva a été organisée à Moscou. La menace est donc réelle pour Areva qui va tenter de défendre son leadership. Première étape, attaquer Siemens pour non-respect de la clause de non-concurrence dans le nucléaire. C'était un des enjeux du divorce à l'amiable prononcé le mois dernier.
Des résultats en série aujourd'hui. D'abord, Eurotunnel qui pour la première fois de son histoire versera un dividende à ses actionnaires. Une première qu'Eurotunnel doit à son bénéfice net de 40 millions d'euros l'année dernière. De son côté, France Télécom atteint ses objectifs en 2008. Il annonce même un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, en hausse d'1% à 53,5 milliards d'euros. Son bénéfice net est dans le rouge, en revanche, avec une chute de 35,5% à plus de 4 milliards d'euros. Et puis on termine avec le Crédit Agricole. La première banque pour les particuliers en France annonce un bénéfice en chute de 75% en 2008. Des résultats bien inférieurs aux attentes. Principale explication, une perte de plus de 300 millions d'euros au quatrième trimestre de l'année dernière. BFM, il est 10h, passé de 33 minutes.
BFM Radio, un journal de l'économie toutes les demi-heures.
Et tout de suite, les grands débats continuent avec Nicolas Dose.
BFM, les grands débats, Nicolas Dose.
Marc Fiorentino, il est président de Roland Finance. Il est l'auteur d'Un trader ne meurt jamais aux éditions Robert Laffont. Et Henri Quinson, membre fondateur de la Fraternité Saint-Paul, qui est auteur des Moines des Cités, de Moines des Cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille aux éditions Nouvelle Cité. On parlait des relations entre les Français et l'argent. J'aimerais avoir votre vision plus personnelle de l'argent. Marc écrit dans le monde du trading, 100 000 euros, c'est du pocket money, de l'argent de poche. Sur les marchés, on peut vendre ce que l'on ne possède pas. 1987, tourbillon médiatique, explosion de mes bonus, je ne sais même plus ce que je gagne. De votre côté, Henri Quinson, vous racontez ce lundi matin 16 octobre 89, je peux résister à la force qui m'habite, je me lève, je dois démissionner. Et là, vous allez partir pour les Cisterciens en Savoie. La prime mensuelle que je touchais à Ado Suez représente mon salaire annuel de prof à mi-temps. Et Marc Fiorentino poursuit, je ne savais même plus ce que je gagnais, alors je suis devenu un vieux con. Et vous, vous racontez un de vos collègues qui réagit en 89, c'est toi qui as raison, nous menons une vie de con. Votre vision de l'argent, Marc Fiorentino, pocket money 100 000 euros, c'est déjà, ça peut être un peu choquant de dire ça, mais effectivement, quand on fait du trading, c'est du pocket money. Vous avez vécu cette période où effectivement, on ne sait plus ce qu'on gagne.
Oui, enfin, il faut rappeler quand même que cette période, c'était encore, enfin, pas pour moi, mais je parle en général, dans les marchés, c'est encore il y a un an. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est encore aujourd'hui pour beaucoup de gens, même si on en parle beaucoup moins, on n'en parlera plus du tout dans quelques temps, et tout ça se fera cacher parce que ce qu'on n'entendra plus parler, on n'entendra plus parler de bonus, mais il y en aura toujours. Je pense que le rapport de l'argent, il y a deux rapports à l'argent. Il y a le rapport à l'argent dans les métiers de la finance. Dans les métiers de la finance, l'argent, c'est la mesure de la performance, c'est-à-dire que c'est le classement ATP pour un joueur au tennis. Voilà, c'est tout, c'est très simple. Donc l'argent, c'est simplement pour une mesure. C'est combien tu gagnes, combien tu pèses aux États-Unis, c'est la question clé. C'est-à-dire, on se rencontre, on est deux sportifs. Quel est ton classement au tennis, quel est ton handicap au golf, combien tu pèses, c'est exactement la même chose. Donc c'est un indicateur de performance. En ce qui me concerne, quand j'ai été dans la finance, j'irai dans le trading et dans le cœur du trading, c'est vrai que l'argent était une mesure de performance. Je pense qu'aussi, et c'est ce que je disais d'ailleurs à Olivier Besancenot, c'est que je pense qu'aussi, et je rebondis sur ce qu'a dit Henri par rapport aux gens des cités, je pense que quand on n'a pas eu d'argent, qu'on commence à en avoir, je pense que c'est aussi un moyen de sortir de situations qui sont pas faciles. Ouais. Je pense que s'en sortir par l'argent, ça n'a rien d'honteux, je préfère m'en sortir par l'argent que pour m'en sortir parce que prône un Olivier Besancenot qui est une sorte de répartition, de partageons de tout ce qu'on a pour qu'on soit tous pauvres. C'est pas le but.
Quand vous dites un indicateur de performance, c'était un indicateur de bonheur aussi ou pas?
C'est pas la question. Je crois que le bonheur,
c'est Sam Ventura qui a de l'argent, qui est reconnu dans les restaurants où il a ses habitudes et où il ne peut se permettre d'aller que s'il est très riche et on va lui apporter son plat habituel parce qu'il a même pas besoin de le commander. Sa chaise est déjà là et son menu, tout le monde le connaît. Et que tout d'un coup, quand ça n'arrive plus, c'est dur à encaisser.
Oui, je pense que je me lancerai pas sur la question du bonheur. Je pense qu'elle est beaucoup trop complexe pour un financier de base comme moi. Donc,
on va la laisser à Martiassen et Stiglitz.
Voilà, où je laisserai ça à Henri. Je pense qu'il connaît mieux ce sujet que moi. Il l'approche au quotidien dans sa forme peut-être opposée. Non, je pense que simplement l'argent c'est un moyen de s'en sortir. Et je pense qu'en France, malheureusement, on donne plus souvent l'image de s'en sortir par l'aide que de s'en sortir par soi-même. Gagner de l'argent, ça n'a rien d'honteux.
Versets 11 et 12 du psaume 61 que vous citez, Henri Quinson. N'aspirez pas au profit, si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Alors là, justement, on est dans cette limite hein, qui vous est propre par rapport à vos collègues, j'ai envie de dire, de votre vision, vous, de l'argent, et ben, allez-y.
Ben, moi, je suis une caricature, c'est-à-dire mon itinéraire, le gars qui est né à Neuilly-sur-Seine, à l'hôpital américain, qui est franco-américain, qui vient d'une... Mon père lui-même était banquier, donc par rapport à Marc, d'une certaine manière, on se rencontre... on se croise dans la cage d'escalier. Moi, je suis dans une mobilité sociale descendante volontaire. Lui a réussi sur ce plan professionnel, et tout ça, je trouve ça formidable. Moi, je n'ai absolument rien contre le fait que les gens puissent trouver dans notre organisation économique et sociale de quoi vivre tous les jours. Elle est là pour ça. Bon, après, la question, c'est les écarts absolument incommensurables de revenus. Pour moi, il faut arrêter le baratin. Il ne s'agit pas de dire on va interdire les bonus, parce que comme ça a été dit par Marc, les bonus, ils arriveront d'une manière ou d'une autre à se recréer.
C'était l'une des échos ce matin, Barroso, qui nous dit ça y est, on va s'y mettre, il n'y aura plus de bonus pour les traders ou on va les encadrer par la loi.
Oui, hein, ça va s'appeler autrement.
Pourquoi on n'use pas d'une politique fiscale mondiale où tout le monde se met d'accord pour dire voilà, à certains niveaux de revenus, eh bien on va avoir une contribution à l'organisation de la planète. C'est très simple comme règle. Il s'agit de l'appliquer. Il s'agit effectivement aussi, il y a des efforts qui sont faits en ce moment pour mettre fin aussi aux paradis fiscaux. Voilà, donc
d'accord, Marc, pour une politique fiscale qui soit plus juste.
Bah, je pense qu'elle fonctionne pas. Hein. Aujourd'hui, elle est, elle
ah
est,
bah, on peut la changer,
elle est privative. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle fonctionne pas. Aujourd'hui, je trouve qu'en France, on est ultra fiscalisé, et c'est pas pour ça qu'on a un système qui fonctionne mieux. Je suis pas d'accord là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on est déjà mis à contribution, et je pense que quelque part, on se faisait la réflexion avec des amis hier. Il y a aujourd'hui un point on est arrivé et on va arriver, parce qu'il est clair que de toute façon, ce que souhaite Henri est en train d'arriver. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour financer le déficit public qui est gigantesque dans tous les pays, y compris aux États-Unis. Il va falloir faire exploser les impôts. Le problème, c'est qu'on va pas simplement faire exploser les impôts des gens qui ont beaucoup d'argent, parce que les gens qui ont beaucoup d'argent, même si on leur fait payer beaucoup d'impôts, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Il faut le dire. D'accord, il faut le dire. C'est pas en taxant les riches qu'on arrive à générer beaucoup de recettes.
L'impôt
ça ne fonctionne pas.
L'impôt sur le revenu
pas.
En France n'est pas l'un des plus élevés. Oui, d'Europe. On est d'accord. L'impôt sur le revenu. Là. Je parle pas des prélèvements dans leur
revenu. Le problème, Marc, et là-dessus, on sera d'accord, c'est que pour moi, il faudrait faire une vraie réforme de la fiscalité pour les bas revenus. En France, il y a beaucoup de gens. J'en ai fait l'expérience moi concrètement à Marseille. J'ai commencé au RMI à Marseille, au Paradoxe, et je me suis rendu compte qu'en commençant à travailler à mi-temps, c'est mon choix de travailler à mi-temps. Finalement, je perdais du pouvoir d'achat. C'est quand même l'immense paradoxe de ce pays dans lequel on a un système fiscal où on va commencer à payer une taxe d'habitation, une redevance télé, etc. Et donc les gens qui acceptent de travailler légalement vont commencer effectivement à payer toutes sortes d'impôts alors qu'ils contribuent par leur travail. Et je pense que face à la spéculation, puisque tout le monde veut faire la chasse à la spéculation, la première chose à faire, c'est de rendre intéressant le fait de travailler dans ce pays.
Ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le
on
cas.
Est bien d'accord
ce qui n'est pas
là-dessus.
Le cas. Et surtout, ce qui me fait peur, si tu veux, dans un débat dans lequel on pourrait augmenter les impôts, entre guillemets, pour pénaliser les gens qui gagnent le plus d'argent, c'est que finalement, tu arrives à un moment où il n'y a plus de besoin d'aller en avant, d'entreprendre. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de tuer en France, qu'on a tué depuis longtemps, de toute façon, en France, puisque l'esprit d'entreprise en France a été quand même massacré à coups de massue. Ce qu'on est en train de mettre à mal, c'est l'envie d'entreprendre, parce qu'aujourd'hui, très clairement, l'incitation à se défoncer, elle est quand même ultra limitée. Elle est très limitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu disais, on peut trouver une sorte d'équilibre de vie avec des aides, avec un revenu qui est un revenu sensiblement moyen. Et aujourd'hui, je pense qu'il va se passer dans les 3 années qui viennent, et ce qui me fait très peur, même aux États-Unis, c'est que franchement, il va y avoir une incitation à pas bosser beaucoup plus, parce que ça servira à rien, parce que tout partira en impôts.
J'aimerais avoir votre avis, Henri Quinson, sur le regard que vous portez sur le monde de la finance. Voilà ce qu'on lit dans le livre de Marc. On découvre chaque jour l'étendue de la bêtise, voire de la malhonnêteté des financiers. La finance se nourrit des excès des imbéciles à l'optimisme béat. C'est un repère d'arnaqueurs avec des arnaques en milliards et quelquefois des victimes consentantes. Les vrais acteurs du marché sont par essence irresponsables du fait d'une passion pour l'argent qui les dévore et le plus souvent les détruit. Et là, oui, effectivement, il parle d'un monde sans morale, de la spéculation. Vous êtes d'accord avec ça, avec aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu depuis ces derniers mois? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans un univers de la bêtise et de la malhonnêteté?
Oui, je crois qu'il y a pas mal d'exemples pour illustrer ça. Mon souci par rapport à ça, si vous voulez, c'est que pour moi, il n'y a pas d'affaire Jérôme Kerviel. Il y a une affaire Société Générale et de manière générale, un certain nombre d'institutions qui sont chargées quand même de voir ce qui se passe sur les marchés.
Oui, on commence quand même 2008 avec un type qui fait perdre 5 milliards et on finit l'année avec un autre type qui en fait perdre 50.
Mais c'est pas la même chose,
on est d'accord. Mais vous voulez, il y a une espèce d'inflation incroyable dans les chiffres.
Mais Madoff.
Et après, l'inflation dans les
Madoff,
chiffres de relance.
Madoff, c'est la SEC qui ne fait pas son travail. Il faut quand même poser. Les subprimes, c'est quand même deux institutions qui ont des responsabilités politiques et qui sont normalement surveillées par des élus, Freddie Mac et Fannie Mae, qui ne font pas leur travail. Donc il ne faut pas tirer non plus un peu trop facilement sur les traders. Il y a un certain nombre d'institutions qui ont été mises en place et qui n'ont pas fonctionné. Donc là, c'est l'économie mixte, c'est-à-dire aussi le politique qui est en cause. Et malheureusement, ce que je regrette, c'est qu'un certain nombre de gens qui sont les fauteurs de troubles n'ont pas forcément été ceux qui ont été licenciés. Moi, je pense à des collègues qui ont été licenciés tout récemment, qui sont des gens qui ont travaillé de manière très professionnelle et qui payent les frais d'un certain nombre de gens qui ont commis des folies et qui, eux, vous prenez Royal Bank of Scotland, le PDG qui part avec une retraite à 50 ans qui fait rêver mes voisins, c'est scandaleux. C'est scandaleux.
Ouais, il faut rajouter, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il faut rajouter quand même qu'aujourd'hui, à part Dexia, et c'est peut-être parce que c'était franco-belge, il n'y a eu aucun mouvement à la tête des banques françaises. on a exactement les mêmes patrons.
Ça vient.
On les
Bravo,
non, ça vient pas, ça vient pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. On est en train de faire tourner les chaises. C'est-à-dire qu'on lui dit, écoute, t'étais numéro 1, sois gentil, on va te mettre numéro 3. On va te donner la direction de la filiale. Alors, tu n'es plus président, tu es président non opérationnel. Mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on vient avoir la plus grande faillite du système financier mondial. Et en France, on a la direction des banques les mêmes. Et à la tête de la Société Générale, on a exactement les mêmes têtes qu'à l'époque de Kerviel.
Quand ces messieurs à Bétron m'a cité HLM avec moi, je croirais à la sanction du marché. Mais pour l'instant, il y a un système de cooptation et de copinage qui fait qu'un certain nombre de gens n'ont pas payé la note.
Voilà, ce lundi 16 octobre 89, on marque une pause. Je dois démissionner. Ce choix restera toujours incompréhensible pour ceux qui ne connaissent que le monde visible, écrit Henri Quinson. Et d'ailleurs, vous dites même vous que par moment, ça vous étonne encore. À tout de suite.
BFM Radio, tout savoir avant d'aller travailler. 6h-10h, Good Morning Business avec Stéphane Soumier. Le bilan de la séance à Wall Street, la clôture en Asie, l'ouverture des bourses européennes. Good Morning Business, le checkpoint de la matinée. Interview, analyse, édito. Good Morning Business vous donne l'opinion du monde des affaires. 6h-10h, Good Morning Business avec Stéphane Soumier. Écoutez vibrer la planète écho sur BFM Radio.
Il est 10h45, les marchés en direct avec Guillaume Sommerer.
Le CAC 40, il progresse, il gagne 2,2% aujourd'hui, franchit les 2600 points, on est à 2611. On sent quand même que ça reste très fragile, on s'envole absolument pas. Et les 2600 points restent tout à fait aléatoires, on les a pas du tout en poche. Ça restera donc à confirmer tout à l'heure avec l'ouverture de Wall Street et un grand rendez-vous cet après-midi, 14h15. Les chiffres de l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis. Globalement, les analystes attendent plus de 600 000 destructions de postes dans ce secteur pour le mois de février. Donc, du côté des valeurs, parmi celles qui soutiennent la tendance, Vinci gagne 8,5% à 27 €. Vinci salué après ses bonnes performances 2008. Puis sur le SRD, la meilleure perf, c'est Néopost aujourd'hui, plus 8,5% à 60,20 €. Hermès aussi gagne plus de 8% à 70,60 €. Les échos citent des analystes de la Société Générale, des analystes qui estiment qu'Hermès est bien placé pour rentrer au CAC 40 prochainement au détriment de Dexia. Parmi les plus fortes baisses, Sperian Protection perd 11% à 30 €. Puis sur le CAC, on a 6 baisses, notamment Sanofi Aventis, moins 1,6% à 40,40 €. Crédit Agricole aussi est sanctionné après sa perte du quatrième trimestre supérieure aux attentes. Crédit Agricole perd 0,3% à 7,10 €. Donc le CAC prend 2,2%, 2611 points. L'euro vaut 1,2516 $.
Un point sur les marchés boursiers tous les quarts d'heure, uniquement sur BFM Radio.
10h45, vous retrouvez la suite des grands débats.
En débat, Nicolas Dose sur BFM.
Réaction d'auditeur, Eric est à Strasbourg. Je proposerai de taxer les activités plus que les revenus, dit-il. Et puis, réaction de Pascal, je n'arrive pas à lire le département, l'imprimante l'a mal imprimé. J'adore Marc Fiorentino. Alors, seul Dieu est adorable, je dis à Pascal, puisque Henri est avec nous. J'ai aimé son bouquin, mais les statistiques de création d'entreprise disent exactement le contraire. Jamais les Français n'ont autant fait le grand saut dans la création d'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qu'on lui répond?
Alors, on lui répond que, je vais vous dire la vérité, ça, je vais faire là encore hurler. Je pense que le statut d'auto-entrepreneur qui, à la base, est une très bonne idée, est une façon masquée de dire aux Français qu'il va falloir qu'ils aient un deuxième job. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les auto-entrepreneurs sont pas du tout des gens qui veulent créer une entreprise, ce sont des gens qui sont obligés de compléter leur job actuel par un petit job. Donc ce qu'on est en train de dire en français, c'est un, vous ne pourrez pas vivre d'un seul salaire, donc il faut un deuxième job, d'où le statut d'auto-entrepreneur. Donc ça masque complètement l'idée. L'auto-entrepreneur, c'est pas un entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est un mec qui fait des petits boulots, c'est un deuxième job. C'est
horrible, mais qu'il les déclare.
Mais c'est bon, c'est quelque part, et est-ce qu'on va bientôt lui dire, c'est que de toute façon il touchera pas sa retraite, il vaut mieux lui dire dès aujourd'hui.
Donc il a intérêt à bosser, à gagner plus dès maintenant,
et à être auto-entrepreneur.
Henri Quinson, de Wall Street au quartier nord de Marseille, aux Nouvelles Cités, page 49. Je respecte jusqu'à ce jour les communistes qui ont milité pour plus de justice sociale. Dieu reconnaîtra les siens. À qui pensez-vous? J'ai envie de dire qu'Olivier Besancenot aujourd'hui est un type qui milite en apparence, pour une forme de justice sociale.
Là, on va pas être d'accord.
Bon, juste avant, je cite ma grand-mère américaine qui me disait, tu sais, Henri, la différence entre un communiste et un chrétien, un communiste, c'est celui qui dit tout ce qui est à vous est à moi, alors que le chrétien, c'est
alors,
tout ce qui est à moi est à vous.
Je suis pas sympa, Henri, parce qu'effectivement, voilà, j'ai pas cité ce qu'il y a avant. J'ai invariablement critiqué le communisme idéologique athée totalitaire et inefficace, mais je respecte blablabla.
Voilà, non, c'est quand même important de le dire. Donc,
mais vous savez, les journalistes sont des salopios. Ils vont toujours prendre la phrase.
J'ai pas dit ça. J'ai plus grand respect pour votre métier. Non, Non, je crois que c'est important de mettre ça en perspective. C'est-à-dire que moi, dans ma conception évangélique, ma conception des relations avec les gens, c'est que c'est sur la base de l'amour au prochain, ceux qu'on rencontre dans la vie, l'aide concrète qu'on peut leur apporter. Quand je dis aide, c'est leur permettre de réussir. Donc c'est souvent apprendre à pêcher plutôt que donner du poisson. Hein, mais je veux dire que c'est ça qui compte. Alors un communiste qui n'a pas passé son temps à massacrer des chrétiens ou des juifs en URSS pendant 70 ans, mais qui a milité éventuellement, notamment sur le plan syndical, pour que des conditions s'améliorent pour des gens qui bossaient 12 heures par jour, payés à coups de lance-pierre, je trouve ça positif.
Olivier Besancenot, vous en pensez quoi?
Écoutez, Olivier Besancenot gagne un peu plus d'argent que moi, d'abord.
Oui, d'accord, il n'est pas communiste au sens communiste, puisque ça porte plus ce nom-là, mais voilà.
Je note avec intérêt.
Il n'a tué personne et il fait du militantisme syndical, notamment chez Solidaire. Enfin, il est dans le pedigree de ce que vous décrivez.
C'est un aspect de la question, c'est que si effectivement il permet d'améliorer les conditions d'un certain nombre de gens, je trouve que c'est utile. Après, son projet de société, la manière dont il souhaite organiser le fonctionnement de la société en France ou en Europe, après reste à voir si c'est favorable à l'ensemble de la population. Ça, c'est un débat politique assez large.
Je voudrais revenir sur Olivier Besancenot. Olivier Besancenot, pour moi, c'est l'archaïsme le plus total. Olivier Besancenot ne comprend rien à l'économie, ne comprend rien à la finance, ne comprend rien au mécanisme.
Il a jamais prétendu comprendre l'économie.
Non, mais il faut qu'il le comprenne. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que quand il va emmerder le monde dans les gares de SNCF, alors qu'il a jamais fait une manifestation dans une banque, c'est qu'il se trompe de cible. Ça fait 2 ans que le système financier explose. Il a jamais foutu les pieds dans une banque. Ses équipes sont allées devant la bourse de Paris et on a interrogé les gens. C'était pas pour le symbole qu'ils étaient là. Ils ont voulu bloquer les transactions financières. Personne ne leur avait expliqué qu'il n'y avait plus de transactions financières à la bourse. Donc Olivier Besancenot, il est bien gentil. Dans les périodes de crise, c'est très sympathique d'avoir un gars avec un petit visage angélique qui nous joue son couplet de cycliste à Neuilly. Franchement, je pense que là, il exagère un peu. Il exploite en ce moment le malaise des gens. Et même en exploitant le malaise des gens, ça ne marche pas très bien parce qu'il a oublié une chose, c'est que les Français tiennent à leur pognon. Et lui, il fait peur. Et il fait peur aux gens, même qui ont de l'argent à la banque postale, là où ils travaillent.
Ça s'appelle une claque en direct. Franck Riboud, la recherche de la maximisation du profit n'est mécaniquement pas durable. Cette attitude a distendu de manière préoccupante les liens de l'entreprise avec ses autres parties prenantes, les fournisseurs, les salariés et les clients. La période soulève avec acuité la question fondamentale, enfin trop longtemps occultée mais fondamentale, du rôle de l'entreprise dans la société. S'il y a 48 heures dans le monde, Marc Fiorentino, est-ce que là, il se passe quelque chose quand
Mais
on
il se passe rien du tout. On est toujours dans le même discours.
Oui, mais on disait rien avant.
On le dit à chaque crise. C'est toujours la même, les mêmes, excusez-moi, c'est les mêmes conneries qu'on raconte à chaque fois. Bon, s'il n'y a pas de profit, s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Une entreprise qui fait pas d'emploi ne crée pas d'emploi. Le pauvre patron de PME, parce que quand on fait l'amalgame, parce que c'est ça que je reproche, moi, à Olivier Besancenot, entre autres, c'est de faire l'amalgame. Quand il parle de patron, on sait plus s'il parle du patron du CAC 40, s'il parle du pauvre type qui est en train de s'emmerder pour préserver 10 emplois dans des zones difficiles. Quand on est patron de PME, on est entrepreneur, on est capitaliste puisqu'on a mis son propre pognon dans la boîte et c'est quand même difficile. Donc quand on est en train de nous expliquer que globalement on va trop loin dans le domaine du profit, moi je veux bien, alors dans ce cas-là, on met un salaire unique pour tout le monde, mais qui va générer de l'argent? Qui va créer des profits? Qui va pédaler pour payer tout ça? Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même 2 ans, il y a 1 an et demi, c'était pas il y a si longtemps, c'était pas un autre siècle, le chômage en France avait chuté et on avait une croissance mondiale qui était au record depuis 20 ans. Donc ça, c'est bien le capitalisme qui l'a créé. Ce sont les entreprises qui l'a créé. C'est pas au premier accident de parcours qu'on est en train de dire, il faut tout balancer.
Henri Casson, dans quel coin êtes-vous? Dans ce que dit Marc Fiorentino ou dans ce que dit Franck Riboud? Foutaise, disait Marc Fiorentino, il écrit, dans Le Monde, la période soulève avec acuité la question longtemps occultée du rôle de l'entreprise dans la société.
Je crois que l'entreprise est un des acteurs de la société. Je pense que c'est un acteur important et en même temps, je m'inscris pas du tout dans le faux débat qui consiste à opposer le capitalisme ou les marchés et puis le socialisme, si ça existe encore, ou un modèle alternatif. La réalité, c'est qu'il y a toujours eu des économies mixtes. Il se trouve qu'il y a des États, il se trouve qu'il y a des entreprises, il y a aussi des institutions religieuses. C'est extrêmement important de voir qu'il y a des courants philosophiques, des courants religieux qui créent le substrat éthique d'une société. Même sur les marchés, la possibilité de faire des transactions, c'est-à-dire que notre oui soit un oui et notre non soit un non, ça n'est pas acquis partout dans le monde. Ça vient d'une éducation. Donc c'est très important aussi de montrer qu'il y a en amont, il y a tout un travail à faire sur nos représentations du monde, la société que nous voulons bâtir ensemble, et qu'il n'y a pas que l'entreprise, même si c'est une institution importante dans le fonctionnement, par exemple, de la société française.
Marc, un mot, parce que j'ai encore une dernière question. Le Monde, en octobre 2008, écrit Henri Quinson, lit le New York Times tous les jours, il observe avec... une forme de gourmandise, l'agonie des fleurons de Wall Street et des banques d'affaires américaines.
Oui, bah écoutez, mon père me disait, quand on m'avait fait la proposition chez Merrill Lynch d'aller travailler à Londres avec le titre de Vice President à l'âge de 28 ans, il me disait, moi on m'a donné ça à 50 ans, j'aimerais bien voir quelle tête auront ces banques dans 20 ans. Je crois qu'il avait quand même bien vu les choses, c'est-à-dire qu'il y a eu des excès, il y a eu des excès commis, et puis je pense que sur les marchés, ils ont ce mérite, c'est que normalement les excès sont purgés par des crises. Voilà, ma seule question c'est de faire en sorte que les coupables, si tant est qu'on puisse les repérer, paye un peu aussi la note. Voilà, c'est ma seule question par rapport à ça.
Ouais, il aurait dû partir, Daniel Bouton ?
Écoutez, moi je veux pas me prononcer pour les gens personnellement. C'est un principe de base, c'est que quand on est responsable, précisément, normalement dans ce système, la responsabilité, elle doit être assumée jusqu'au bout, y compris dans des échecs.
C'est le cas aux États-Unis.
Exactement. C'est plutôt une bonne nouvelle, cette crise, ça va être plus facile d'acheter une maison ou un appartement, dit Henri Quinson, Marc Fiorentino.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont un peu d'argent, mais il faut dire que cette crise a quand même, personne ne pleurera sur eux, mais a quand même touché les plus riches aussi, et notamment les escroqueries ont touché les plus riches, donc ça il faut le dire aussi. Moi, je pense, simplement pour rebondir ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense qu'on n'arrivera pas à réconcilier la France avec l'argent tant qu'on continuera à parler de PIB. Et je pense que moi, en tout cas, ma grande croisade des semaines à venir et des mois à venir, c'est la croisade pour des nouveaux indicateurs de richesse. C'est effectivement le travail que fait Stiglitz et qu'il va proposer en avril. Et je pense que quand les Français se rendront compte que finalement, oui, le PIB est de moins 1,5% en 2009, mais que le produit de bien-être est en hausse de 6% et qu'il l'a triplé depuis 20 ans, qu'ils seront réconciliés avec l'économie.
Allez, le mot de la fin avec vous, Henri Quinson, Marc Fiorentino écrit, je savais même plus ce que je gagnais, j'étais devenu un vieux con, mais si c'était à refaire, je recommencerais tout pareil. Vous recommenceriez tout pareil ?
Ben moi, j'ai acquis de la rigueur, de la rapidité, une capacité d'analyse en travaillant sur les marchés pendant 4 ans, donc je ne crache pas du tout dans la soupe. Ouais. Il se trouve que je suis passé à autre chose. Mon parcours a un côté un peu caricatural ou spectaculaire. L'avantage des caricatures, c'est que ça grossit les traits et ça nous permet de réfléchir de manière plus fine à des grandes questions, et notamment notre rapport à l'argent, pour qu'il soit juste, qu'on l'utilise de manière saine.
Vous avez jamais rien regretté ?
Non, ben moi, par principe, je ne vis pas dans le regret, je vis plutôt dans les projets.
Dans les projets. Merci d'avoir été là, Marc Fiorentino. Merci. Henri Quinson, un trader ne meurt jamais, Robert Laffont, Marc Fiorentino et Henri Quinson avec le Moine des Cités de Wall Street au quartier nord de Marseille, aux éditions Nouvelle Cité. On va retomber sur terre avec le comité Balladur et sa feuille de route 2014. Il la remet à Nicolas Sarkozy demain, bfmradio.fr pour réagir en direct.